c'est mon job.
On va blâmer ça, c'est les changements climatiques. Hein. Moi, j'ai une nouvelle gang que je joue avec mes amis. Là, ils viennent les samedis soirs, puis là, on écoute des politiciens, puis à chaque fois qu'ils disent « changement climatique », on prend une shot. Une demi-heure, reste on est tout comme une balle.
Dans cet épisode, aujourd'hui, un nouveau podcast spécialement sur la cybersécurité dans le domaine de la petite enfance. On a, évidemment, je suis accompagné de Valérie aujourd'hui. Hey, bonjour Valérie.
Bonjour.
On est accompagné aussi avec notre invité qui s'appelle Jacques Sauvé, un spécialiste en cybersécurité, pour parler avec nous justement de ce sujet qui est quand même assez important. Bonjour Jacques.
Bonjour, merci de m'inviter à ça, c'est le fun.
Merci.
Comme Eric l'a mentionné, peut-être, on te voit souvent dans les médias, on te voit à la télévision, dans le domaine de la cybersécurité, entre autres, tu participes au podcast La French Connection, globalement, on aimerait savoir aussi là, qui est Jacques, là, d'où ça part, tout ça. Oui?
Qui est Jacques? Mon bagage? Ça fait plus de 33 ans que je travaille en réseautique, informatique. J'ai été absent du Québec pendant environ 6 ans, de 2014 à 2020. On habitait en Alberta. Ensuite, on a décidé en février 2020 de se lancer dans une grande aventure. On a déménagé en Irlande, dans le sud-est de l'Irlande. J'ai eu une opportunité d'aller travailler là-bas et ça nous excitait, là, c'était le fun. Sauf qu'on est arrivé évidemment à la fin février, 3 semaines plus tard, tout fermait, la pandémie a frappé. J'avais quand même mon emploi, j'ai continué à travailler, mais rendu au mois de juin-juillet, je me suis aperçu que la compagnie pour qui je suis allé travailler, pas les gens, là, mais le propriétaire, ça s'enlignait vraiment pas avec mes valeurs et la façon de traiter les clients. Et donc, au mois d'août, on a décidé de revenir. On est revenu au Québec. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Je savais que j'allais me placer les pieds à quelque part, mais j'ai eu des opportunités de consulter avec la PME, hein, d'aider des PME, et j'ai décidé cette fois-ci de focusser plus sur l'aspect cybersécurité, parce qu'on en reparlera, là, en gros, la cybersécurité, c'est simplement de la bonne hygiène TI. Et parce que j'adore l'entrepreneuriat, j'admire les entrepreneurs, ce que j'appelle les bâtisseurs de notre économie. Hein. On sait qu'au Canada, au Québec, on dit plus que 90% de notre économie carbure à la PME.
Ouais.
Et donc, c'est important là, d'aider à protéger ces entrepreneurs-là qui s'investissent tellement dans leur entreprise. Parce que c'est un peu le rôle que je me donne présentement, là, c'est de travailler avec des petites organisations, que ce soit n'importe quoi, pour les aider à mitiger le risque.
Tu l'as mentionné aussi brièvement, la cybersécurité pour toi, c'est une bonne hygiène TI. Mais en quelques mots, là, pour un public plus général, comment tu décrirais la cybersécurité? C'est quoi un peu une synthèse rapide? Là?
La cybersécurité, ça consiste à mettre en place les bonnes pratiques, les bonnes configurations, les bonnes formations, il ne faut pas oublier ça, pour mitiger le risque d'une cyberattaque. Puis peu importe les efforts qu'on fait, même moi avec mes clients, là, je leur dis tout le temps, peu importe les efforts que je fais, que vous faites, qu'on fait ensemble, vous ne serez jamais 100% à l'abri d'une cyberattaque. Les plus grosses compagnies au monde se sont faites hameçonner, se sont faites attaquer. On parle des Microsoft, de n'importe qui là, qui a eu des incidents. On le voit dans les médias, les bombardiers de ce monde, Maple Leaf Foods, Sobeys l'année dernière, les plus grosses entreprises, la Prudentielle, il y a 2 ans. Alors, il y en a une tonne puis malgré des équipes de cybersécurité. Fait que c'est vraiment d'adapter, comme je disais, là, des bonnes pratiques, des bonnes configurations, faire le plus qu'on peut pour rendre la vie difficile aux cyberméchants. Comme ça, s'ils trouvent qu'ils ne sont pas capables de vous attaquer, ils ne sont pas capables de vous arnaquer parce qu'on a mis en place des mesures,
c'est un peu comme le vol.
C'est ça qu'on veut.
C'est un peu comme le vol de voiture. Tu sais. C'est sûr que si tu as une alarme, ton véhicule il est verrouillé, que tu as activé une barre club sur le volant, ben peut-être que le voleur, il est capable quand même peut-être de te la voler, ton auto, mais il va passer au prochain avant.
Ça va le dissuader.
Exact, parce qu'il va dire « Ouais, ça va être trop long avec celle-là, ça va être trop compliqué. » Fait qu'effectivement, il va dire « Ah, il y en a un autre plus facile
à côté. » Fait que dans le fond, on peut pas se protéger à 100%, mais on peut faire le nécessaire pour que ça soit moins pire si ça nous arrive après, j'imagine.
Voilà. En cybersécurité, on a le concept de defense in depth, défense en profondeur. Donc, en règle générale, il y a 3 étapes. C'est prévenir, détecter et récupérer ou recouvrir. Fait que c'est sûr, le plus qu'on peut faire pour prévenir une cyberattaque, ben, ça, c'est le bout du bout. Hein? Si on peut tout mettre en place, les configurations, les formations, adopter des bonnes pratiques de travail, ben, on va essayer de prévenir une cyberattaque. On ne veut même pas composer avec ça. Maintenant, si quelque chose arrive, on a quelqu'un cliqué sur un lien dans un courriel, il y a une vulnérabilité et les méchants sont rentrés dans notre réseau, ben, on va être capable de détecter ça rapidement. Le plus rapidement on peut détecter qu'il se passe de quoi, ben, le plus rapidement on peut colmater la brèche puis peut-être empêcher une fuite de données. Puis finalement, ben, si on n'a pas été bon dans ni un ni autre de ceux-là, ben, là, on deal avec la récupération. Ça veut dire peut-être on s'est fait chiffrer nos données, mais ben, là, il faut s'assurer qu'on a des bons backups. Il faut composer avec toutes les conséquences de ça. Ici au Québec, on a la loi 25. S'il y a eu une atteinte à des renseignements personnels, ça veut dire qu'il faut avertir la commission d'accès à l'information. Fait qu'il y a plein d'enjeux comme ça. Là, qui... Fait qu'on ne veut pas se retrouver à l'étape de récupération. Puis ça me faisait drôle un moment donné, j'entendais des entrepreneurs dire « Bah, j'ai des bons backups. » Ouais, mais t'es rendu au point que t'es rendu au backup. Non, ça n'a pas bien été, là, tu t'es fait avoir.
C'est comme dire « j'ai une bonne assurance » ou quelque chose du genre. Puis des bons backups, hein? Y en a-tu des bons backups? Voilà. C'est quoi un bon backup, dans le fond?
Un bon backup, c'est de s'assurer qu'on est toujours en mesure de récupérer nos données, s'il arrive de quoi. J'ai fait le tour d'une couple de domaines de CPE là, au Québec, surtout en Estrie, j'ai regardé parce que c'est plus ma région, mais il y a beaucoup de CPE qui utilisent Microsoft 365. Et c'est très, très rare que les gens pensent à faire des backups de ça. Hein? Puis pourtant, ils ont des choses dans leur courriel, ils ont des choses dans Teams, OneDrive, SharePoint, ils utilisent tout ça. Je connais des CPE là, qui ont plein d'affaires, ils mettent tout dans SharePoint. Hein? Tous les partages de fichiers sont dans SharePoint. Je garantis, je mettrais ma main dans le feu là, que la grosse, grosse majorité d'eux autres ne font pas de backup. Puis je dis ça avec beaucoup de confiance parce que je participe avec dans un programme du CNRC, le Centre national de recherche du Canada, un programme qui s'appelle le PARI, qui aide des entreprises là, qui font de l'innovation et de la recherche comme ça. Et je fais beaucoup de sessions de sensibilisation à la cybersécurité avec ces entreprises-là. La grosse majorité sont dans Microsoft 365. Et quand on arrive à la place dans la présentation où on parle des backups, ben là, la plupart réalisent que non, ils n'ont pas de backup de Microsoft 365. Ils pensent tous que Microsoft fait des backups. Je leur dis non. Microsoft ne fait pas des backups. Microsoft a de la redondance de toutes vos données. Ils vont s'assurer que tout est disponible. Mais ce n'est pas eux autres qui font des backups. S'il y a un cyber méchant qui réussit à rentrer dans votre système Microsoft 365, puis tout chiffré ou tout effacé, puis vider les corbeilles, vous avez tout perdu. C'est ça, les backups. C'est toujours de se questionner s'il arrive de quoi à mes données, est-ce que je peux les récupérer?
Moi, je pense qu'il y a un des éléments que les gens oublient souvent, là, c'est les tests de recouvrement de backup. Je pense que minimum deux fois par année, il faut... Pour récupérer backup et regarder s'il y a vraiment quelque chose sur notre backup. Là, parce que des fois, on sauvegarde juste un répertoire qu'on pensait pertinent à l'époque. Puis aujourd'hui, ben, on utilise d'autres répertoires, d'autres solutions. Puis là, finalement, on n'a pas ce qu'on voulait. Là.
Non, c'est bon de tester. Puis je dirais plus qu'une ou deux fois par année, honnêtement. Il y a des outils qui existent pour prendre des backups de Microsoft 365. On peut récupérer une boîte de courriel au complet, un répertoire dans une boîte de courriel ou un courriel en particulier. Fait que c'est bon de temps en temps, juste aléatoirement, là, de rentrer dans ces backups et de dire « Ah, tiens, je vais récupérer une boîte de courriel ou je vais récupérer un folder, n'importe quoi, là, un ou deux courriels, puis je vais ramener ça. » On va aller dans SharePoint, dans les backups de SharePoint, puis on va dire « Ah, tiens, je vais récupérer ce répertoire-là, est-ce que ça va revenir? » C'est sûr qu'il faut valider. Il y a eu plein d'histoires là, d'entreprises qui ont été chiffrées dans le temps, surtout où on avait des serveurs là, dans les bureaux. On voit ça de moins en moins aujourd'hui. Puis je suis certain qu'il n'y a pas grand CPE qui ont des serveurs dans leur bureau. Mais dans le temps qu'on avait tous les serveurs dans les bureaux avec les backups, puis là, le serveur se faisait chuter ou il y avait un autre
dégât. Un feu, un vol.
Une cyberattaque, hein, dégâts d'eau, dégâts, un feu, n'importe quoi. C'est ça. Puis là, les backups n'étaient pas bons. Hein? Oui, les backups, là, ils se faisaient tous les soirs, mais on ne pouvait pas récupérer.
Je dirais qu'une fois par année, c'est pas rare. T'sais, nous, à Migest, on est connecté avec les différents systèmes comptables, avec des API. Puis c'est pas rare qu'un client nous appelle et qu'il nous dit qu'il faut qu'il recommence ses données parce qu'il a perdu ses backups puis son serveur est disparu, chiffré, volé, peu importe. Ça arrive au moins une fois par année, puis je trouve ça tellement plate parce que c'est évitable là, comme situation. Là. Il y a des solutions, Puis souvent, ils pensent que c'est la responsabilité du technicien dans une entreprise externe, tu sais.
Non, ben c'est ça, là. Oui, on peut donner à contrat nos services de TI, mais à quelque part, ça demeure la responsabilité, dans le cas d'un CPE, là, c'est habituellement le directeur général ou directrice générale, qui est ultimement responsable de s'assurer que s'il se passe de quoi, on peut récupérer. Oui, on peut ensuite blâmer la firme de services TI, mais ultimement, la responsabilité va sur les épaules de plus haut dirigeant ou le plus haut dirigeant. Faire des tests, comme tu dis, là, une fois par mois, une fois par 6 mois, une fois par année. Hey, monsieur TI, s'il nous arrive de quoi, là, est-ce qu'on peut récupérer nos données?
Je l'ai dit souvent aux clients, là, quand j'ai l'occasion d'en discuter, là, puis les clients me posent des questions, je lui dis, faites juste un test. Tassez un document là, du répertoire, là, puis demandez à votre technicien de le récupérer. Puis bien souvent, là, ils sont pas capables de l'avoir, leur document, parce qu'il n'était pas prévu.
Voilà. Ben, tu sais, en cybersécurité, on a la notion de faire de la gestion de risque, surtout au niveau de la gestion de risque dans un CPE. Ça peut être n'importe quoi, là. Feu, n'importe quoi, un parent enragé qui rentre dans le CPE. Mais parlons là, de données informatiques et de cybersécurité. Et on se limite à ça. La gestion de risque voudrait qu'on pense, entre autres, à où sont nos données. Hein? Je suis une directrice générale d'un CPE, là. Sont où mes données? Bien, j'en ai dans Amigest, hein, évidemment. J'en ai dans Microsoft 365. J'en ai dans, peut-être, on utilise QuickBooks Online, fait que j'ai des données là.
Ouais, et
ils ont peut-être d'autres systèmes, là. Faut penser à où sont toutes les données. Ensuite, dans une gestion de risque, on pense à la probabilité et l'impact. Fait que la probabilité, on peut scorer ça de très bas à très élevé. Quelle est la probabilité qu'il arrive de quoi à ces données-là? Fait que peut-être on pense à Amigest, puis on sait chez vous, c'est très sécuritaire, puis les accès sont bons, fait qu'on dit peut-être que c'est très bas. À Microsoft 365, on va dire c'est élevé, je sais pas. Moi, je dis tout le temps, imaginez toujours le pire scénario. Hein? Imaginez là, vous rentrez un matin, puis même si tu avais mis ça à très bas, il s'est passé de quoi, puis les données sont effacées, sont plus là, sont chiffrées, peu importe. Il reste donc l'impact. Quel est l'impact? Fait qu'il y a des données, peut-être, qu'on va dire, si on perd ça, c'est fatigant, mais c'est pas la fin du monde. Si on perd ça, on est dans le chenoute. Fait qu'il faut, c'est ça l'exercice qui doit être fait. Et les CPE que j'ai connus, avec qui j'ai travaillé ou que j'ai, par d'autres entremises, là, que j'ai été exposé, je sais qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de documents dans SharePoint. Donc, il faut protéger ça.
On se demande souvent, tu sais, tantôt je l'ai dit un peu, la cybersécurité, on se fie à notre technicien informatique là, à l'extérieur, autant pour les backups, mais aussi pour la sécurité de notre entreprise. Puis on s'attend à ce qu'ils prennent le lead finalement là-dessus. Puis tantôt tu disais que dans ton enquête, tu as remarqué qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas vraiment faits. Fait que c'est comme inquiétant là, de découvrir des choses qui ne sont pas faites à la base. Fait que ça confirme que ne sont pas nécessairement super sécuritaires selon moi, là, mais.
Non, c'est un petit peu une chose que je trouve désolante dans le marché et j'en ai parlé dans des présentations, dans des colloques.
Il y a plein de PME.
Là, on parle
aussi
aujourd'hui de CPE, mais on peut aller dans la PME privée, là, dans n'importe quelle petite organisation au Québec, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de réglages de sécurité qui ne sont pas faits. Il y a des choses qu'on peut valider de l'externe. Là, et j'ai justement regardé à peu près une douzaine de domaines de CPE ce matin avant l'enregistrement. Et j'ai remarqué qu'il n'y en a pas une, là. Il n'y a pas un domaine qui était bien protégé au niveau de la protection des courriels. C'est une chose, une petite affaire tellement banale à faire. Puis je me dis, si ça, c'est pas fait, quoi d'autre est-ce qui n'est pas fait pour protéger là, les identifiants, les données? Et oui, je sais qu'il y en a qui font peut-être affaire avec des firmes de services TI, mais là, 4 ans en cybersécurité, là, depuis que je suis revenu, je peux vous dire que c'est étonnant le nombre de firmes de services TI qui sont bons à fournir des services TI là, général, hein, des Microsoft 365, des decks, des ordis, vendre des imprimantes, des choses comme ça, peu importe, dépanner des usagers. Mais quand ça vient au réglage de cybersécurité, il y en a qui sont c'est zéro open bar. Là, hein? Ils sont pas là du tout. Puis il y en a qui sont assez humbles pour l'avouer. Là. J'ai travaillé avec, j'ai fait des évaluations de posture de cybersécurité pour bien des PME dans les derniers 3-4 ans. Puis il y en a qui faisaient affaire avec des firmes de services TI, mais ils voulaient avoir ce point de vue externe-là, voir est-ce que c'est bon ou non. Puis là, c'était vraiment pas bon. Puis la firme de service TI, ils ont collaboré, puis ils ont dit, ils ont avoué, ils ont dit, bon, c'est vraiment pas notre spécialité, je suis content que tu nous montres ça. Mais il y a un chemin à faire dans le marché au niveau des firmes de service TI pour améliorer.
C'est quand même quelque chose qui évolue rapidement aussi, l'informatique en général, je crois. Oui. Au niveau de la cybersécurité, ben, on l'a dit, on ne peut pas se fier à 100% à notre technicien. C'est un peu la responsabilité du directeur ou de la directrice générale. Tu dirais, en fait, en bout de ligne, peut-être ça vaudrait la peine d'acquérir des connaissances en tant que directeur, en tant que directrice à ce sujet-là pour être capable de ne pas tout reposer sur notre technicien, tu sais, de pouvoir faire des check-ups un peu une fois de temps en temps.
Des connaissances ou de la conscience?
Voilà. C'est même si la directrice n'est pas technique, là, elle ou il se doit de questionner et de poser des questions. C'est quoi notre posture de cybersécurité? Là, on est-tu bon? On n'est-tu pas bon? Est-ce qu'on a bien des vulnérabilités? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer? Mais je vous confirme que c'est le plus gros problème qu'on voit sur le marché au niveau des PME, c'est que la plupart ne s'en préoccupent même pas.
De se conscientiser en bout de ligne. Ouais. Mmh. Puis on est un peu à la merci aussi des différentes entreprises, des différentes plateformes. Là. On est pour la majorité sur réseaux sociaux et tout, puis tout se fait pas mal en ligne de nos jours. Là. Mais quand on pense à nos comptes en ligne, à nos utilisateurs, c'est quoi, à ton avis, pour un utilisateur, les moyens pour se protéger le plus possible au niveau de notre connexion et tout ça pour éviter peut-être de se faire usurper notre identité ou autre?
Bien, si on parle au niveau personnel, pas entreprise. Mm-hmm. Au niveau d'entreprise là, ou du CPE, c'est au CPE de mettre en place des bonnes pratiques et d'imposer ça comme politique aux employés. Mais au niveau personnel, souvent dans les médias, quand on parlait là, de d'arnaque, de fraude, de toutes sortes de choses, et on va me demander qu'est-ce que monsieur et madame tout le monde pourrait faire, devrait faire. Je vais toujours répondre la même chose. Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est d'apprendre à utiliser un gestionnaire de mots de passe et de storer tous vos mots de passe là-dedans, de laisser le gestionnaire de mots de passe vous générer là, des mots de passe à coucher dehors, là, très complexes. Moi, mes mots de passe là, pour LinkedIn, Facebook, X, tous les services que j'utilise, je ne les connais pas. Je connais juste mon mot de passe complexe. C'est une phrase pour débarrer ma voûte le matin quand je m'assieds à l'ordi. Puis après ça, ben c'est mon gestionnaire de mots de passe qui me log dans tous ces sites-là. C'est toutes des affaires de Facebook, LinkedIn, c'est toutes des mots de passe de 31 caractères, majuscules, minuscules, des chiffres, des symboles. Je les connais pas. Là. Puis une des choses, fait que moi, je dis toujours les trois règles d'or pour bien protéger ses identifiants, c'est avoir des mots de passe très complexes, différents pour chaque site et service, ça c'est important, et l'authentification multifacteur partout où on peut. Et la plupart des gestionnaires de mots de passe vont gérer l'authentification multifacteur aussi. Ah, donc, quand on parle de très complexe et différent pour chaque site et service, ben là, c'est clair que nos petits cerveaux ne peuvent pas
s'appeler. Oui, puis c'est complètement normal.
Il faut... oui, puis tu sais, vous autres, vous en avez fait l'expérience. Je sais que vous utilisez un bon gestionnaire de mots de passe chez Amigest. On dirait que c'est difficile de convaincre les gens à faire ça. Puis quand il y en a qui commencent finalement avec un gestionnaire de mots de passe, là, ils me reviennent et ils disent « Wow, j'aurais dû faire ça bien avant. Hein? » Parce que là, t'es pas obligé de te rappeler tous ces mots de passe-là. Puis là, les gens, s'ils ont de la misère à se rappeler de leur mot de passe, ils utilisent le même mot de passe partout. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc oui, ça soulage la tête aussi. Là.
Non, je pense que c'est un must. La première étape, je pense que c'est d'avoir un bon gestionnaire de mots de passe, au minimum. Là. Puis c'est vrai que c'est facilitant, puis ça nous libère le cerveau parce qu'on n'a pas à les apprendre. Mm-hmm. Puis moi aussi, j'ai fait le tour. Puis j'étais encore en train de faire le tour de vieux mots de passe que je ne suis pas satisfait. Fait que je les repasse dans le système pour qu'ils m'en mettent un plus sécuritaire. Fait que sinon, ça, c'est reposant. certaines personnes vont penser, moi j'ai la réponse, là, mais je veux l'entendre d'un expert, que ben, c'est plus dangereux d'avoir une voûte parce que tous les mots de passe sont dedans, fait que le pirate, il pourrait avoir accès à tous nos mots de passe.
C'est une inquiétude qui est absolument justifiée. Et malheureusement, on a eu un des plus populaires, des gestionnaires de mots de passe les plus populaires, qui s'appelle LastPass, qui a eu dans les deux dernières années, je pense, 3 fuites de données, dont une qu'il y a eu accès à des voûtes là, qui ont pu être décryptées. Ça veut dire que leur méthode de chiffrement n'était pas fort en partant. Mais il y en a d'autres là, qui sont beaucoup plus puissants. Moi, perso, j'utilise un gestionnaire de mots de passe qui s'appelle 1Password, qui est super. Puis, parce que c'est une compagnie canadienne, en plus. C'est deux gars qui ont commencé ça à Toronto. Ils ont eu un succès énorme. Ça fait au moins 12-15 ans que je me sers de ça. Aujourd'hui, ils sont rendus quelque chose comme, je pense, pas loin de 800 employés à travers le monde. Il est très, très bien reconnu. Et leur méthode de chiffrement, écoute, il y a une des clés qu'on utilise de chiffrement, là, qui est un code qu'on se génère, que c'est juste nous autres. Eux autres, ils n'ont jamais accès à ça. Fait qu'ils ont admis que, écoute, c'est pas impossible qu'on ait une brèche, hein, qu'on se fasse attaquer. Puis qu'ils volent les données, les voûtes, mais ils ne seraient jamais capables de déchiffrer ça. C'est tellement chiffré solide
qu'ils
ne seraient jamais capables d'atteindre les mots de passe. Fait que oui, c'est une inquiétude que beaucoup de monde ont. Mais écoute, le risque, à mon avis, est tellement minime. Puis je mentionne 1Password, mais il y en a d'autres aussi, le Bitwarden. Puis je me souviens plus d'autres, là, c'est les deux que je connais. LastPass, je pense qu'ils ont perdu tellement de clients là, depuis ces brèches-là. Mais il y en a d'autres et qui sont très solides. Mais c'est préférable d'utiliser ça que d'essayer d'utiliser des mots de passe simples.
Ouais, puis dans le fond, quelqu'un dans un autre pays qui essaierait d'atteindre ta voûte à distance, ben la plateforme est faite que c'est ton appareil qui est approuvé, fait qu'il va s'en rendre compte, puis il ne te laissera pas passer, puis il va activer certains mécanismes. Voilà. Fait que même si quelqu'un avait ton mot de passe dans un autre pays qui voudrait avoir accès à ta voûte facilement, c'est pas facile. Il y a plusieurs étapes. Là.
Non. Il y a plusieurs étapes. Puis l'autre affaire qui est le fun, 1Password le fait, et je pense qu'il y a d'autres gestionnaires de mots de passe. Comme vous savez, là, dans 1Password, il y a quelque chose qui s'appelle Watchtower. Fait que c'est le fun parce que, évidemment, on met tous nos mots de passe. On dit, ben moi, j'ai un compte sur LinkedIn, mon autre usager, mon mot de passe est là, j'ai un compte sur Facebook, puis les mêmes données sont là. Fait que si un jour LinkedIn a une fuite de données, une brèche, ben là, dans 1Password, on a un avertissement. On dit « Hey, LinkedIn a eu une fuite de données. Les mots de passe sont fuités. Va changer ton mot de passe le plus vite possible. » Le gestionnaire de mots de passe nous avertit s'il y a un de nos identifiants qui est à risque. Ça, c'est le fun aussi. Ouais.
Mais malgré tout ça, malgré une voûte à mots de passe et tout ça, il y a quand même d'autres moyens peut-être de se protéger aussi, des moyens supplémentaires. On entend de plus en plus parler du MFA, donc le multifacteur. À ton avis, selon ton expérience, à quel point c'est important, à quel point il y a un intérêt à considérer le multifacteur? T'sais, il y a quand même de plus en plus de plateformes qui le demandent ou qui l'exigent.
Oui, c'est très important. On préconise ça énormément dans la communauté de cybersécurité. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas l'authentification multifacteur, c'est quand on se connecte à quelque part, on nous demande un nom d'usager, le mot de passe, et là, oups, ça nous prend un autre code qui va nous être envoyé au moment du login. Et que ce code-là est bon seulement typiquement pour 30 secondes. Maintenant, une des façons les plus simples que les développeurs font ça, c'est d'envoyer un texto sur notre téléphone. C'est pas la façon la plus sécuritaire de faire du MFA parce qu'il y a de l'arnaque au niveau des numéros de téléphone, des cartes SIM, on a entendu parler. Ça peut être capté. Mais je vais toujours dire, j'aimerais mieux voir une authentification multifacteur par texto que de ne pas voir d'authentification multifacteur. Hein? C'est mieux que rien. La plupart, exemple, dans Microsoft 365, il y a Microsoft Authenticator, hein, l'authentificateur de Microsoft. Fait qu'à chaque fois qu'on veut se connecter dans SharePoint, ça nous montre un petit code qu'il faut rentrer sur notre téléphone ou vice-versa. Puis là, ça nous laisse rentrer, ça valide vraiment. Pourquoi on fait ça? C'est parce que s'il y a une brèche de données à quelque part, puis vous avez réutilisé le même mot de passe, et là, il y a un cyber méchant assis, je ne sais pas, en Russie, qui a votre nom d'usager puis votre mot de passe Microsoft 365, qui essaie de se connecter, bien, la connexion finira jamais. Parce que là, vous allez devoir rentrer le code qui est sur votre appareil. À quelque part, c'est ce qui manque. Maintenant, ceci dit, c'est important de clarifier, ça va très loin à protéger les identifiants. Et donc, on dit en 2024, là, tout le monde devrait utiliser ça. Cependant, ce n'est pas infaillible. Il y a des arnaques qui existent, okay, des méthodes qu'on appelle « attacker in the middle », où quelqu'un va vous envoyer un courriel d'hameçonnage ou un texto, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page là, qui est votre page de login Microsoft, du moins, ça ressemble à ça, mais vous n'êtes pas vraiment sur la page de login Microsoft. Mais les gens ne regardent pas tout le temps. « Ah, ma page de login Microsoft, ils mettent leur identifiant, le jeton multifacteur est rentré ensuite, mais vous êtes comme sur un serveur intermédiaire du cyberméchant qui relaie votre authentification à Microsoft. Et quand Microsoft renvoie l'authentification, ben eux autres capturent ça, puis là, sont dans votre compte. Fait que c'est pas infaillible. Puis on peut montrer comme exemple clé au mois d'octobre l'année passée, mi-octobre, ça a été très médiatisé. J'ai eu l'opportunité d'en discuter avec Mario Dumont, là, c'était le fun. Il y a eu à peu près une douzaine de PME québécoises qui, un matin, se connectent dans leur compte de banque BNC, hein, dans leur compte de banque entreprise,
ah non.
Et il ne reste plus rien. C'est à zéro. Parce qu'entre minuit et 5 heures le matin, il y a eu plein de transferts. Okay? Fait que là, ils voulaient savoir, là, évidemment, ils blâmaient la banque, il faut que la banque me rembourse, puis ça a chialé, puis écoute, ça a explosé dans les médias. Ce que j'ai dit à Mario Dumont, c'est, écoute, il y a deux côtés de la médaille, hein, comme toutes les histoires. Premier côté, c'est est-ce que la banque pourrait faire plus technologiquement pour protéger les PME ou CPE, n'importe qui? Oui, absolument. Exemple, peut-être que la banque pourrait dire, attends un peu, le Jacques, habituellement, il ne fait pas des transferts bancaires à 1h30 du matin. Hein? Ça, c'est un peu anormal. On va bloquer ça, on va confirmer avec lui demain matin. Fait que oui, je pense que les banques pourraient faire un petit peu plus. Mais j'ai dit de l'autre côté, c'est clairement, indéniablement, ces gens-là se sont fait hameçonner. Hein, puis ils ont cliqué sur quelque chose, sont arrivés sur une page qui ressemblait probablement énormément à la page de login de Banque nationale. Ils ont rentré leur identifiant, mais ils n'étaient pas là. C'est intéressant parce que la semaine d'après, il y a eu un retour sur cette histoire-là sur l'émission JE. Après leur reportage, ils ont fait un retour là-dessus. Puis là, ils ont interviewé un genre de spécialiste d'information, je ne me souviens plus son nom, c'est quoi au juste, mais il disait c'est impossible, il faut que ça soit la banque. Parce que quand on fait affaire avec la Banque nationale, surtout si on fait la paye, mais dans bien des cas, ils nous envoient une clé physique, une petite clé RSA, qui génère un code de 6 chiffres à toutes les 30 secondes, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est l'authentification multifacteur. Hein, c'est une clé là, que tu dois avoir avec toi. Je sais, je n'ai déjà eu une dans le passé. Fait que quand on se connecte à la Banque nationale, ça demande notre nom d'usager ou notre numéro de carte, peu importe, le mot de passe, puis là, il faut rentrer le chiffre là, qui est sa petite clé, hein, la dernière étape. Fait que les cyberméchants, ils n'ont pas ça. Sauf que, oui, s'ils n'étaient pas sur le site de la banque, mais ils étaient sur un site intermédiaire de l'attaquant, ils n'ont jamais remarqué, même s'ils sont authentifiés avec la clé, ben, l'attaquant a le jeton qu'on appelle le session cookie, là, il est connecté, puis durant la nuit, ils ont vidé le compte. Fait que ça, c'est un autre bon tuyau. Hein? Surtout quand vous vous connectez à la banque, là, quand vous avez fini, la plupart du monde font juste fermer l'onglet ou ils ferment le furteur. Mm-hmm. Non, la session est encore active. Fait que si vous faites ça, puis quelqu'un a votre... C'est un petit cookie qu'on appelle là, dans le furteur. Si quelqu'un a réussi à capturer ce cookie-là, la session est encore bonne. Fait qu'une des bonnes pratiques à prendre, hein, oui. Valérie, tu parlais de c'est quoi les bonnes pratiques, ben c'est ça. Là, quand on a fini avec la banque, on ferme logout, hein, se déconnecter. Fait que là, le session cookie qui est sur le PC, ben il est plus bon. Fait que ça, c'est une autre bonne habitude à prendre. Quand on se log à quelque part, puis on a fini, que ce soit dans AmiGest, que ce soit dans la banque, dans n'importe quoi, quand on a fini, se déconnecter.
Absolument. Un des éléments qu'on remarque chez nos clients, c'est que tu sais, on a une partie de nos clients qui sont en mode local, puis une partie de nos clients qui ont commencé à utiliser le mode nuage en se disant que c'était plus sécuritaire. Je ne sais pas c'était quoi ton opinion par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment un gage de sécurité, le nuage, par rapport à leur mode local?
Puis ma philosophie là-dessus, mon point de vue, c'est pas grave où sont les données. Peu importe où ils sont, qu'ils soient locaux, qu'ils soient dans le nuage, il faut qu'ils soient bien sécurisés. Écoute, j'ai du monde sur LinkedIn là, qui n'arrête pas de bâcher le nuage. Tu mets des choses dans le nuage, t'es pas sécuritaire, ils sont tellement contre ça. Mais ceux qui ont des réseaux internes encore avec des serveurs de courriel puis des serveurs, sont pas mieux là, parce qu'ils font pas leur mise à jour. Il y a plein de bonnes pratiques, ils se laissent vulnérables. Fait que moi, je dis toujours, c'est pas grave où ils sont les données. Il faut mettre les réglages de sécurité. Microsoft 365, là, oui, ça peut être très sécuritaire, mais il faut faire les réglages. Hein? Puis quand je fais des je veux pas dire des audits, là, c'est pas un audit formel, c'est plus une évaluation de la posture de sécurité, mais tout le monde comprend audit. Mais quand je fais un audit de sécurité, écoute, je rentre dans un système Microsoft 365, là, puis comme les réglages de sécurité sont pas faits. Là. Fait que c'est pas étonnant qu'il y ait des fuites de données, des compromissions de compte courriel, les réglages sont pas faits. Fait que moi, j'ai pour mon dire que peu importe où vous mettez vos données,
faut faire notre bout de chemin.
Faut faire les réglages protéger. De sécurité.
Les protéger.
Oui. Oui. Puis en fait, pour la plupart des. Tu sais, je regarde des organisations comme des CPE qui ne sont pas nécessairement forts en cybersécurité. Je dirais, c'est peut-être plus sécuritaire de mettre les choses dans le nuage parce que Microsoft s'occupe de faire les mises à jour, ils maintiennent ça. Il y a certaines choses que Microsoft fait pour vous aider à protéger vos choses. Mais il faut quand même faire les réglages de sécurité. Et c'est très clair dans les contrats avec les Microsoft et les Google de ce monde. Hey, nous, on vous fournit l'infrastructure. Venez mettre vos courriels, vos documents dans SharePoint, peu importe. Mais vous êtes responsable de les sécuriser comme il faut.
Puis au-delà des applications, puis des logiciels et tout ça, ça prend quand même des appareils pour les installer, là, ces applications-là, puis les utiliser, ces logiciels-là. C'est quoi ton avis sur le matériel de façon générale? Est-ce que c'est important d'avoir des appareils récents, peut-être plus à jour, sans nécessairement avoir le dernier iPhone ou le dernier MacBook sorti? Est-ce que c'est important d'avoir du matériel à jour?
Jusqu'à un certain niveau, oui, parce qu'on dit souvent, je vous lance un chiffre, on dit que 61% des cyberattaques qui réussissent sont contre des vulnérabilités dans des logiciels, dans des systèmes d'exploitation, qui ont déjà été adressées par le manufacturier. Mm. En d'autres mots, la patch existe, la mise à jour existe pour empêcher cette vulnérabilité-là. Les gens, cependant, tardent à déployer les mises à jour. Et on dit clairement, en cybersécurité, c'est la patente numéro un à faire. Hein, c'est pas obligé d'aller dépenser des fortunes, là.
Ouais.
Hein? Parce que ça, c'est un autre mythe qu'on pourra discuter, là. Mais c'est juste faire vos mises à jour de Windows, de macOS, mais aussi des applications que vous utilisez, Office, Teams, Zoom, Chrome. Chrome, c'est du vrai fromage suisse, là. Hein, faut vraiment s'assurer que Chrome est à jour constamment parce qu'il y a énormément de vulnérabilités. Encore cette semaine, j'ai reçu un paquet d'alertes chez mes clients, là, parce qu'il y avait une grosse vulnérabilité dans Chrome. Les systèmes ont tout patché ça, là, c'était correct, mais c'est très important de faire ces mises à jour. Bon, est-ce que c'est important d'avoir le dernier iPhone, le dernier MacBook, le dernier PC? Non. Cependant, on arrive à un point dans le cycle de vie de ces appareils-là où les mises à jour ne sont plus supportées. Hein? Apple, un moment donné, qui dit, là, ben regarde, t'as un vieux téléphone là, qui date de 6-7 ans. Oh, non, on ne peut pas aller à iOS 16, oublie ça. Donc, à un moment donné, on se retrouve avec des appareils, on ne peut plus faire les mises à jour. Il y a peut-être des vulnérabilités qui sont découvertes dans ces vieux systèmes d'exploitation-là, puis là, on se laisse vulnérable. Fait que là, s'il y a du monde dans des CPE qui nous écoute, qui travaille encore sur Windows 7, non, c'est fini, là. Hein? C'est fini. Même Windows 10, là, je pense que ça va approcher la fin de vie. Là. Vous devriez tout être pas mal. C'est encore très bon, le Windows 10, mais de plus en plus, là, on voit les gens qui passent à Windows 11. Mais si vous avez du Windows 7 ou, mon Dieu, du XP, oubliez ça, c'est fini, vous êtes vulnérable.
Non, c'est ça. Souvent, on parle de problèmes de budget, qui n'ont pas le budget nécessairement pour payer les matériels, le matériel nécessaire ou les versions, mais peut-être qu'il y a quelque chose que des fois on oublie, c'est qu'ils ont accès à TechSoup qui permet d'avoir, pour des entreprises à but non lucratif, des licences vraiment à bas prix. Si je fais une analogie, là, moi, une licence Windows va coûter peut-être 250 $, tandis qu'à un CPE, à un OSBL, ça va lui coûter peut-être 15 $. Fait qu'il n'y a pas de raison. Là.
Non, c'est juste question de ce que le PC, le laptop, peu importe ce qu'ils utilisent, est-ce qu'il va supporter les nouvelles versions? Sinon, ben là, je comprends, les budgets sont serrés dans les CPE, là, mais il faut penser à autre chose. Parce que, tu sais, des fois, on dit « Ah, j'ai pas d'argent, j'ai pas le 900$ là, pour acheter un nouveau PC ou peu importe. » OK, mais as-tu les moyens de composer avec une cyberattaque, une fuite de données,
puis tous les coûts
que ça va engendrer? Oui. C'est ça. Parce que là, bien souvent, juste pour que les gens sachent, savent. T'sais, c'est plus juste maintenant une infiltration puis détruire les données. Ils vont exfiltrer les données. Et les CPE, je sais, là, vous avez beaucoup d'informations très sensibles hein, sur les enfants, les parents, vos employés. Il y a énormément d'informations, renseignements personnels qui sont là-dedans. Et là, ils vont tout exfiltrer ça. Là, les cyberméchants vont venir et dire, ben là, paye-nous. En passant, la moyenne de rançon d'une PME canadienne, c'est 140 000 $. Je doute que bien des PME qui ont 140 000 $ dans le tiroir sont prêts à payer. Hein? Fait que c'est ça. Fait là, ils disent, ben non, on a des bons backups. Hein? Tant mieux, vous avez des bons backups, vous êtes capable de les récupérer, mais moi, j'ai toutes vos données. Si vous ne me payez pas, ben je vais mettre vos données sur le dark web. Puis ils ne les vendent pas en passant. Là. Ils font juste les publier là, n'importe qui peut télécharger ça. Là. Fait que, tu sais, c'est là, on veut pas se retrouver dans une situation comme ça. Et donc, oui, c'est important de se tenir à jour et faire des efforts.
Ouais,
oui,
c'est ça. Veut dire moi, ce que je recommande souvent, ou ce que je travaillais avant, c'est ce qu'on faisait. Là. On planifiait 30% du changement d'équipement à toutes les 3 ans. C'était pas parfait. Là. C'était une règle un peu on pourrait faire mieux, là, mais c'était un minimum. Fait que fait que quand tu présentes ça à ton CA,
Ça passe mieux
quand tu le passes en budget annuel ou aux 3 ans que quand que tu arrives en urgence. Ouais. Mon PC n'est pas à jour, il faut tout les changer. Fait que ça passe mieux.
Oui, oui. Puis vous, tu sais, bien souvent, vous regardez avec les fournisseurs, différents fournisseurs, des fois, il y a des moyens de prendre les équipements en location pour 3 ans. Fait qu'au lieu d'un coût qui va être capitalisé, ben là, ça devient un coût d'opération. Dans bien des entreprises, c'est beaucoup plus facile, ça passe mieux.
Plus abordable.
Donc, il y a cette approche-là aussi là, qui peut être considérée. Mais c'est important de se tenir à jour. C'est pas question d'avoir, comme Valérie disait, toujours le dernier gadget. Là. C'est le fun, si on peut se le permettre.
J'étais curieux.
C'est pas nécessaire.
J'ai écouté une de tes vidéos à un moment donné. Il me semble que tu avais pris un PC, tu avais branché ça sur une net direct, puis tu avais regardé les attaques. Il me semble que ça fait une couple d'années peut-être. Oui. Là.
Ça fait à peu près un an et demi que j'ai pas démarré ça. C'est une machine virtuelle que j'avais démarrée chez nous. Parce que je travaille à la maison. Là. Puis, dans mon routeur résidentiel, j'avais ouvert tout le trafic vers cette VM-là. Cette VM-là, c'est ce qu'on appelle un honeypot. Fait que ça émule un paquet de vulnérabilités. Et juste pour que les gens comprennent, faut expliquer quelque chose. Parce qu'il y a bien des fois qu'on parle à des entrepreneurs, peut-être qu'il y a une DG là, ou un DG de CPE qui nous écoute et qui dit ben, « Pourquoi qu'ils nous viseraient, nous autres? Là, hein? Pourquoi qu'ils nous cibleraient? » Il y a ce mythe-là là, que les gens sont ciblés, qui sont dans la mire. Non, non, non. Il n'y a pas un jeune qui se lève en Russie le matin, là, qui met son hoodie et dit « Tiens, aujourd'hui, je vais attaquer une petite CPE à Magog ou peu importe. » Ce n'est pas de même que ça marche. Ils ont des outils, des systèmes qui balayent l'Internet et quand ils trouvent de quoi, ça évalue s'il y a une vulnérabilité et si oui, est-ce qu'il y a un exploit? Si oui, ben là, ça permet à un humain peut-être d'attaquer puis de rentrer. Hein? Fait que ça peut être n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. J'installais ce système-là puis effectivement, durant les balayages, il était trouvé et je peux vous dire que, écoute, les chiffres à cette époque-là, en dedans d'une semaine, à n'importe quelle semaine, à peu près, là, je pouvais avoir de 100 à 200 000 attaques sur ce système-là.
De gens qui ne connaissent pas.
De la Chine, de la Corée, des États-Unis, de n'importe où. Là. Fait que si vous pensez que juste parce que vous avez un routeur de connecter, là, qu'il n'y a personne qui cogne à la porte, non. Ça cogne à la porte.
Je connais d'ailleurs un moteur de recherche, je ne le nommerai pas, là, je ne veux pas encourager. Mais il y a un moteur de recherche style Google qui permet d'identifier toutes les vulnérabilités. Puis c'est là-dedans qu'on va retrouver des caméras, des gens qui sont ouvertes, des sites web mal configurés, des routeurs ouverts qui nous permettent de rentrer dans un CPE. Puis j'ai l'année passée vu une couple de CPE là-dedans. Fait que c'était inquiétant. Je les avais contactés pour les aviser de...
Oui.
De...
OK, je sais de quoi tu parles. Ouais, okay.
Pardon?
Ouais. Non, je me demandais c'est quoi le moteur de recherche, mais non, puis c'est pas un gros secret, là. C'est très, très connu, mais comme tu dis, il y a un engin qui nous permet de de rechercher des appareils vulnérables sur Internet qui sont connectés. Puis effectivement, on trouve souvent des choses au Québec, là, des grosses vulnérabilités. Il y a un moment donné, il y a eu des grosses vulnérabilités dans les serveurs Exchange, les serveurs de courriel Exchange de Microsoft. Puis on pouvait constater qu'il y en avait des dizaines et des dizaines encore au Québec qui étaient vulnérables.
Ouais.
Non, les gens, souvent, les organisations surestiment leur posture de cybersécurité. Ah non, on est correct. Ah non, vous n'êtes pas correct. Vous êtes vulnérable. T'sais? Ouais, mais il n'y a jamais rien arrivé. Ouais, correct, mais il y a bien du monde, il y a bien des spécialistes en cybersécurité. Ils disent que ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand.
Puis si on récapitule un peu tout ce dont on a parlé ce matin ensemble, si tu avais un top 3 là, de conseils que tu pourrais donner aux garderies, aux CPE, à notre type de clientèle là, en matière de cybersécurité, ce serait quoi les 3 conseils?
Ben, je pense que le numéro 1, qui s'applique à toutes les PME là, ou à beaucoup de PME, puis sûrement là, d'après ce que j'ai vu dans les CPE, mais le conseil numéro 1 de loin, c'est il faut s'en préoccuper. Hein? Faut que quelqu'un décide que ouais, on est-tu à risque? Là? Qu'est-ce qui arrive si on subit une brèche, on a une fuite de données, là, puis toutes les données qu'on a dans SharePoint ou sur un ordi quelconque, peu importe. Ça fuite. Là. Toutes les données là, sur les parents, les enfants, nos employés, on a des renseignements très, très sensibles. La loi 25 qui est passée au Québec là, mandate qu'il faut s'occuper de protéger ces données-là. Puis en passant, si jamais vous ne faites rien, là, si la loi 25, ça ne vous dit rien encore, vous n'avez rien fait, si la commission d'accès à l'information, vous vivez une fuite là, avec une fuite de renseignements personnels, la commission d'accès à l'information, là, elle a le pouvoir d'imposer des amendes. Hein? Ça peut être des amendes assez salées. Fait que, encore là, de l'argent. Donc, ouais, c'est de s'en préoccuper, c'est de dire que ça, c'est important. Écoute, l'année dernière, au mois d'octobre, dans la même chose, j'étais à Lévis, l'événement Hackfest. C'est un événement de cybersécurité à toutes les années. Super le fun, je présentais. J'ai invité un de mes clients avec qui je venais de travailler pour atteindre une certification de cybersécurité qui s'appelle Cybersécuritaire Canada. Pas compliqué, là, c'est une petite firme d'ingénierie de 15 usagers. Là. Pas une grosse compagnie. Puis, il est allé parler, je l'ai invité à parler de pourquoi il a fait ça. J'ai adoré ce qu'il a dit quand il est arrivé sur la scène. Il a dit, moi, là, j'ai décidé que la cybersécurité dans mon entreprise, c'est important parce que je n'avais pas les moyens. Là, tout le monde pense aux moyens financiers, hein, l'argent, mais il dit, pas juste les moyens financiers. J'avais pas les moyens psychologiques de dealer avec une cyberattaque. Ça ne me tentait pas de me lever un matin, là, puis on est attaqué, on est chiffré, on a des fuites, envoyer des bitcoins. Il dit, ça ne me tente pas de dealer avec ça, là. Et il dit donc, j'ai décidé de m'occuper. Fait que ce serait le conseil numéro 1. Il faut s'en préoccuper. Il faut que quelqu'un se questionne, dire, hey, c'est quoi notre position?
Dans
on est bon, on n'est pas bon? Et c'est quoi le risque, le niveau de risque?
Donc, ça devrait faire partie c'est de la planif stratégique annuelle des CPE. Ça devrait être un des points importants là,
à aborder.
Oui. Oui, absolument. Puis les gens de les CPE, ils ont des conseils d'administration. Il faut souhaiter qu'il y ait quelqu'un dans le conseil d'administration qui est allumé aussi et dit « Hey, qu'est-ce que vous faites au niveau de la cybersécurité? Est-ce que vous faites des efforts? Avez-vous fait un audit? » c'est ça, il faut faire une évaluation. Puis on revient peut-être à l'autre un deuxième point, c'est de faire attention parce qu'une des choses que je me suis aperçu sur le marché, c'est qu'il y a du monde qui exagère. Il y a des firmes de services TI qui exagèrent, moindrement que ça concerne cybersécurité.
Ouais.
Ils voient des gros signes de pièces. Puis j'ai vu là, des soumissions à des très petites entreprises, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, conséquemment, l'entrepreneur, il dit, ben non, j'ai pas moyen de ça. Là. Fait que c'est pas, je vous dis tout de suite, là, grosse révélation, c'est un gros secret là, dans la communauté de TI, il ne faut pas dire ça à personne. C'est pas obligé de coûter cher la cybersécurité.
Okay?
C'est de s'occuper de la base. Hein? Fait qu'on peut regarder une couple de choses, faire des réglages, puis garde, on vient de faire un gros saut dans notre posture de cybersécurité. Fait que c'est, de temps en temps, là, c'est essayer de se trouver quelqu'un de confiance qui va regarder, puis va nous faire des recommandations. Puis peut-être dire, ben là, oui, vous êtes vulnérable, il y a des choses que vous pourriez faire facilement pour peu ou pas de, d'argent. Là, c'est de bien configurer ce que vous avez déjà.
Puis le prétexte de la loi 25 de vendre un routeur haute performance, c'est... Je connais une entreprise dans petite enfance qui a proposé ça, là. Les chicanés.
Ouais. J'ai vu, écoute, j'ai des petites entreprises de 4-5 employés là, que je gère ici en Estrie, puis ils se sont fait vendre des équipements, là, à des affaires à 3-4 000 $ là, puis les renouvellements sont 2 000-2 500 par année. C'est overkill pour eux autres. Là. C'est pas du mauvais équipement, là, c'est très bon. Mais pour 4 employés, là, c'est pas là qu'ils devraient mettre l'argent, à mon avis.
Ouais. Fait que là, on en est à 2. Est-ce que tu aurais un troisième, peut-être, dernier petit truc?
S'en préoccuper, c'est vraiment là, ce qui prend de la place. Il faut que ça commence par ça. Puis il faut que ça aille, OK, peut-être un autre troisième que mon client avait soulevé aussi, c'est qu'il faut que ça vienne de la direction. Tous les efforts de cybersécurité, tu as beau avoir des employés, des directeurs TI, peu importe, là, qui disent il faut faire ça, il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que quelqu'un décide qu'il faut, faut s'en occuper puis il faut le faire. Il faut avoir des politiques TI, faut pas avoir peur de dire aux employés, regarde, oui, à partir de la semaine prochaine, là, vous avez de l'authentification multifacteur, puis c'est important, il faut protéger ça. C'est la sensibilisation aussi,
la formation.
Ça, c'est un autre aspect, là, peut-être que ça pourrait être point 3,5. Là. Ça serait de faire de la sensibilisation à tous les employés. En entreprise, c'est une des choses qu'on prend beaucoup, là, de faire des formations, de parler de la cybersécurité, de dire faites attention, cliquez pas sur n'importe quoi. Je regarde, là, je connais du monde qui travaille dans des CPE, là, puis ils ont accès à tout leur courriel, Exchange, SharePoint, tous les documents qui sont dans SharePoint. Il n'y a pas d'authentification multifacteur. Il ne semble pas avoir de restrictions au niveau de la complexité des mots de passe. Donc, c'est très vulnérable. Il n'y a aucun contrôle sur les appareils mobiles. Fait que là, on a toutes ces éducatrices-là là, qui sont là avec leurs appareils personnels, qui ont accès à toutes ces données-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sur ces appareils mobiles-là. Il n'y a aucun
contrôle. C'est un peu lousse. C'est un peu lousse, mais... Oui.
Ben, on vise un peu d'ailleurs, là, avec cet épisode-là, à sensibiliser. Là, donc, à établir un peu ce premier conseil-là auprès de la clientèle.
Puis activez donc.
Oui. Puis il ne faut pas, tu sais... Il y a une autre affaire que je vais rappeler aux gens. Là, peut-être de temps en temps, vous voyez quelque chose passer là, à LCN, TVA, peu importe, là, qui à propos d'une cyberattaque. Hein, il y a une cyberattaque là, à la Société de transport de Montréal ou peu importe là, quelle organisation. Là, ils disent il y en a de temps en temps. Non. Juste rappeler aux gens là, qu'à chaque fois qu'ils entendent qu'il y a un cas qui est médiatisé, là, dites-vous qu'il y en a des douzaines et des douzaines qui ne le sont pas. Bon, je peux vous le dire, là, je vis dans la communauté, là, il y en a des fuites de données. Okay. C'est pas juste ce que vous entendez.
Activez donc le multifacteur dans MIGES, il est disponible.
Oui.
Oui, absolument. Ben oui, écoute. Je connais quelqu'un là, qui travaille, une proche de moi là, qui travaille dans un CPE comme éducatrice, puis elle utilise MIGES. Elle ne pas, là, elle adore ça, mais effectivement, il y a plein de données d'enfants là-dedans. Là. Je pense qu'il y a bien des parents qui ne voudraient pas voir toutes les informations
pour leur enfant
cliquer comme ça.
Personne ne veut ça, puis ils ont la solution. C'est juste d'activer le multifacteur. Ça prend 30 secondes, puis tout simplement. Puis en plus, il est compatible avec Microsoft, celui qui utilise déjà pour Office 365.
Qui devrait utiliser.
Fait que c'est le même compatible, fait que ça devrait aider à la situation là, sans problème. Là. Puis. Ouais. Formez donc les employés aussi. Nous autres, on utilise une plateforme de formation. Là.
Ouais.
C'est le fun. C'est le fun parce qu'on apprend. Puis...
Après ça, on peut en discuter ensemble aussi. Puis je pense que ça accentue le concept de sensibilisation.
Oui. Oui, ça, je pense que...
Oui. Puis rappelons aussi aux peu importe là, les directeurs adjoints ou les directeurs généraux qui écoutent le podcast, rappelons que si vous faites de la formation, puis il y a des plateformes, comme Éric dit, là, qui existent pour faire de la formation en ligne. Fait que vous assignez des modules, puis les gens font ça de n'importe où, dans leur petite heure de pédagogie qu'ils ont à chaque semaine, à la maison, peu importe. Mais dites-vous aussi la faveur que vous faites à vos employés, parce que là, ils vont apprendre pourquoi c'est important la cybersécurité, les tactiques utilisées par les cyberméchants, ben, ça va les aider dans leur vie personnelle aussi, là. Hein, combien de fois qu'on voit du monde, hein, clique pas sur, sur une invitation Facebook, là, clique pas, je me suis fait avoir mon compte Facebook, tu sais, puis non, mais aidez-le, ils vont se protéger dans leur vie privée aussi.
Ça facilite aussi un peu la gestion du changement, là, de justement dire pourquoi c'est important, ça justifie un peu l'ajout de mesures supplémentaires. Ouais. Là. Ouais. Fait que ça passe mieux.
Ça passe mieux. En terminant, tu nous proposais tantôt une offre que tu as concoctée pour nos clients qui seraient intéressés d'avoir un petit coup d'œil, là, des petites recommandations, des conseils. Tu nous as fait un tarif prix d'ami, prix d'amigesse.
Oui. Amigesse, un prix amigesse. Mais oui, ben écoute, étant donné là, que tu sais, je veux. Je regardais, comme je disais, là, les certains systèmes là, de certains CPE, certains domaines, puis je suis certain là, que la grosse majorité des CPE pourraient prendre avantage de ça. Mais oui, écoutez, juste vous donner une ordre de grandeur, quand je fais des audits de sécurité, là, mais des évaluations postures de cybersécurité pour des entreprises, même les plus petites, ça part à 3-4 000 $ dépendant de l'ampleur de la compagnie, là, évidemment, combien d'usagers, combien de systèmes qu'ils ont. Mais pour vos clients et ceux qui nous écoutent, oui, écoutez, je serais prêt à regarder là, si vous avez Microsoft 365 ou si vous avez Google Workplace comme système de collaboration. J'ai vu quelques CPE, là, quelques domaines qui ont des genres de serveurs courriels hébergés chez un fournisseur. Ça, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour ça. Là. Mais pour ceux qui sont dans Microsoft 365 surtout et Google Workplace, regarde, pour 1200, là, je regarderai votre système. Puis je pourrais aussi mettre en place quelques réglages pour augmenter significativement votre posture de cybersécurité.
Puis quelques conseils aussi, là, peut-être, que leur technicien pourrait appliquer ou des trucs comme ça, j'imagine. Oui.
C'est ça, un genre de petit rapport avec des bonnes pratiques, des choses à considérer. Initialement, je touche à rien. Hein? Je fais juste faire un survol du système Microsoft 365 ou Google. Et puis, à partir de là, je fais des recommandations. Mais s'ils veulent que j'applique certaines recommandations, ça me
fait
ça rapidement. Hein? S'il y en a qui sont intéressés, ça me ferait plaisir de regarder ça avec eux autres. C'est toujours. Puis même si vous faites affaire avec une firme de service TI, comme je disais, il y en a pas. C'est pas toutes les firmes qui sont bons en cybersécurité. Puis non seulement ça, mais quand on parle de cybersécurité aussi, c'est toujours bon d'avoir une vue d'ensemble d'une tierce partie, là, de quelqu'un détaché de tout ça.
Oui, non, je pense que oui. Mm.
Puis pour pouvoir te contacter, en fait, Jacques, à quel endroit, comment c'est plus facile de te rejoindre, de te retrouver, je sais pas, réseaux sociaux ou autre, ou un site Internet peut-être?
Sur LinkedIn, je suis très présent, mais ils peuvent aller sur mon site aussi, trilogium.ca.
OK.
On va mettre le lien dans la description.
Il y a un formulaire de communiquer avec moi là, pour la page contact. Qui est, autre que comme beaucoup de sites où on remplit ces formulaires-là, puis ça se trouve dans le néant, on n'entend jamais parler. Oui, moi, je reçois un courriel immédiatement. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, juste à remplir le petit formulaire, puis oui, je vais répondre.
Bon, ben, génial. Bien, merci, merci Jacques d'avoir accepté notre invitation. Ça se fut belle rencontre. Hein,
vraiment, instructif. Même personnellement, j'en ai appris davantage. Fait que merci beaucoup Jacques d'avoir participé à notre podcast ce matin.
Merci.
Ça me fait plaisir.